De précédentes. Ce qui m'y fait penser, c'est la présentation par Jacques du modèle représentation, expression et déconnexion, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Donc il renvoie, me semble-t-il, assez exactement à ce qu'on discutait ce matin et à partir de ton exposé, Stéphane, aussi tout à l'heure, sur. Cette modalité, enfin ce que j'essayais d'exprimer sur cette modalité d'émergence de nouveautés, de changement de statut de la parole par rapport aux deux termes de la vocalisation et de la verbalisation. Et où il me semble qu'il y a deux choses qu'on n'a pas discutées. Par exemple, sur la question de la biennale de la danse qui me frappe beaucoup, c'est le fait que justement s'invente à ce moment-là un type d'acteur qui est spectateur en même temps, enfin qui est à la fois acteur et spectateur. Et ça me semble une caractéristique intéressante qui me rappelle les réflexions de, ça y est, merde, je ne me rappelle plus, Denis Guénoun sur l'histoire du théâtre, et sauf erreur, où il explique comment ce que l'orchestre en tant qu'espace intermédiaire entre la salle et la scène vient de la pratique, de l'invention de la pratique et de l'invention du chœur qui est composé de citoyens ordinaires qui jouent comme des acteurs et qui donc au fond se mettent dans un statut intermédiaire entre le public purement spectateur et l'acteur professionnel qui lui est sur la scène, et du coup s'invente cet espace intermédiaire où comme ce sont des spectateurs qui sont acteurs, ils se mettent devant les spectateurs mais derrière les acteurs, ou réciproquement. Et voilà. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la question de l'émergence, enfin, justement, du projet, de la façon dont un espace peut naître d'invention, de pratiques intermédiaires. Alors là, d'un espace intermédiaire, c'est assez simple et c'est local. Mais peut-être qu'il y a matière à transposer des choses, justement par rapport à des enjeux de projet architectural ou urbain. Je me disais aussi que cette question, alors pour le coup, de l'orchestration, en détournement de l'idée de naissance de l'orchestre comme espace intermédiaire entre la scène et la salle, d'une certaine façon, dans les stratégies de pouvoir et de politique culturelle, ce sont bien des stratégies d'orchestration, au sens où ils vont localiser et chercher à focaliser les parcours, des choses comme ça. Bon, voilà, c'était une réflexion. L'autre, c'était la référence à Hermès, qu'on a un petit peu oublié, peut-être. Hermès, oui, les cinq Hermès de Michel Serres, mais toutes les réflexions aussi des hellénistes, etc., des d'Étienne, etc., dans les années 80, où Hermès est un dieu formidable parce que c'est le dieu de l'échappement. Et donc c'est le dieu des commerçants, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Donc là, pour le coup, c'est exactement Rio, là, les bandes de jeunes, et qui va semer les troubles, quoi. Il naît et il sort déjà de sa grotte à reculons pour faire croire qu'il est rentré alors qu'il sortait. C'est le dieu qui va conduire l'amoureux auprès de sa belle, mais qui va aussi les conduire, etc., etc. C'est vraiment le dieu du retournement, de l'ambivalence, mais dans un sens d'échappement. C'est-à-dire pas dans un sens militant de contre-pouvoir, mais dans un sens d'échapper à l'ambivalence des choses et d'échapper au double bind, d'échapper à des choses comme ça. Alors là aussi, il me semblait que derrière ce mythe-là, et tous les travaux qui ont été faits à cette époque-là, dans les années 80, il y a des choses à réinvestir certainement par rapport aux observations nouvelles que vous faites, et à cette question, par exemple, de la jubilation de la peur, où là aussi, je trouve qu'il y a une espèce d'homologie à trouver. Quand Sophie, tu as énoncé, moi j'ai noté ces trois registres de la contrainte, de la menace, de la jouissance, comme trois moteurs en fait qui motivent le mouvement de la foule, et où c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas la substitution de l'un par l'autre, ou alors c'est parce qu'on prend le regard du pouvoir ou le regard de l'acteur ou le regard de l'artiste, mais c'est bien la façon de composer ces trois registres-là et de les associer, les dissocier, je leur donne de les pondérer sur des modalités différentes qui permettent peut-être de dire des choses différentes au niveau de l'analyse, mais là aussi au niveau du projet, quoi. Et bon, voilà quelques pistes. Et je trouvais que la distinction entre la représentation et l'expression, l'idée de déconnexion, la renvoyait bien à cette question de l'émergence de nouveautés, de changement de statut de la parole, de choses comme ça.
Tu as dit aussi autre chose, c'est sur la figure. Enfin, tu as parlé de l'orchestration. Alors, c'est vrai que... moi, je m'intéresse beaucoup à l'aménagement. Bon, l'aménagement, il est inspiré par un certain nombre de figures. La figure du démiurge, la figure du maître, enfin du... comment on pourrait dire... du prince savant, enfin bon, il y a un certain nombre de figures. Et il y a une figure, enfin, il pourrait gagner peut-être l'aménageur à trouver des nouvelles figures qui seraient inspirées par l'esthétique et par l'art. J'enlève le démiurge, bon, elle est connue celle-là, mais il y en a d'autres. Il y a, je pense en particulier au compositeur et à l'improvisateur. Alors, là, le compositeur, c'est parce qu'on a de plus en plus affaire à des politiques publiques composites. Vous savez, on parle beaucoup de la gouvernance, multi-acteurs, des intérêts opposés, des gens qui doivent cohabiter, etc. Et peut-être que là, ces enjeux de composition, peut-être qu'il y a une figure qui serait intéressante de mettre en avant pour les aménageurs, c'est la figure du compositeur. Autre figure, celle de l'improvisateur. Puisqu'on n'a plus cette maîtrise, de l'environnement, puisqu'on n'a plus ce grand contrôle sur notre action, peut-être qu'il y a tout un savoir-faire à prendre à partir du jazz, enfin, tout ça. Bon, il y a un collègue qui travaille beaucoup là-dessus en ce moment, qui est Souverain, Olivier Souverain, sur Grenoble. Là, il y aurait des choses à creuser. Enfin, sur des figures, quoi, des choses qui définissent à la fois un mode d'action, puis également des critères de justification aussi. Qu'est-ce qui est le bon compositeur, qu'est-ce qui est le bon improvisateur. Voilà.
D'autres interventions, Sophie, et après Michel.
Je peux revenir sur la place que vous donnez à l'artiste sur la déconnexion. Il me semble que.
Oui, je passe la parole.
Mais que ça donne un peu l'image d'un artiste quasiment démiurge, puisqu'il y a évoqué le démiurge, qui serait complètement inventif et qui, parce qu'il est dans le régime moderne des arts, serait du côté de la modernité, de l'utopie, etc. Mais il me semble que même chez Rancière, le régime moderne des arts suppose cette part intentionnelle de se séparer, hein, d'être capable de produire cette autonomie, cette déconnexion, mais qu'il est aussi pris par l'inintentionnel et que la part intentionnelle, c'est ce qui est totalement réglé par l'artiste, mais que la part inintentionnelle, c'est quand même le sens commun qui réapparaît et qui est là, quel que soit l'artiste. Et donc, c'est quand même un régime où on peut être à la fois dans ce désir d'utopie et finalement être dans la reproduction permanente d'un discours qui sature l'espace public actuel, qui est justement cette affaire de la parole comme patrimoine, le vivre ensemble, toutes sortes de choses qui sont extrêmement répétitives quand même. Et honnêtement, au bout d'un moment, on se dit peut-être qu'on est finalement dans l'illusion du régime moderne des arts, mais qu'on est dans un pur produit de régime éthique des arts, où on fait jouer à l'artiste un rôle pour faire tenir ce qui ne tient pas, ou pour faire vivre ce qui est finalement en train de disparaître, ou pour focaliser sur le patrimoine quand, en fait, on est dans des conflits sociaux. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai tendance à me demander si on n'est pas dans une illusion quand même assez forte en étant un peu dans la fascination de ce genre de produit.
Mais je veux dire, ce qui est tout à fait remarquable, c'est quand on présente ce genre d'expérience sans les magnifier. Enfin, je pense pas. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, je ne pense pas l'artiste comme démiurge. Je pense comme un artisan, éventuellement, quelqu'un qui fabrique quelque chose à un moment donné et qui en rencontre par un savoir-faire particulier. Je ne suis pas en train de mystifier l'artiste ni son rôle.
Par rapport à ce qui était dit juste avant, hein, c'était.
Attends qu'il réponde et puis c'est la après.
Ok.
Non, non, vas-y, je t'en prie. Si c'est... Je n'avais pas saisi qu'il y avait un échange.
Je dis sur des murs, c'est parce qu'il venait d'évoquer la question du projet. Et donc, la question de l'artiste des murs, ce n'est pas pour dire que c'était présenté comme tel.
Je suis d'accord que le truc de Rancière, c'est une côte mal taillée. Qu'est-ce qu'il fait, Rancière? Il fait travail philosophique et il fait une histoire de l'esthétique. Et il fait une grosse typologie.
Bon. Je ne trouve pas du tout, c'est pas mal taillé du tout chez Rancière.
C'est pas...
L'inintentionnel, il y est chez Rancière.
Non, mais, oui. mais... Attends, je vais Donc, Rancière a l'avantage de permettre de poser des catégories sur lesquelles on peut ensuite jouer, on peut... il discerne, il fait du discernement, donc c'est intéressant. Au début, nous, on trouvait qu'il y avait de la mise en forme, et c'est vrai que Rancière, ça nous permet de formuler les choses autrement. Bon. Le risque... Dans une partie moi, des réflexions qu'on avait eues sur les artistes, enfin, moi surtout qui ai cette vision un peu d'aménageur, c'est effectivement d'instrumentaliser l'artiste, c'est évident. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit finalement l'artiste, ben, c'est génial, on a trouvé quelqu'un qui va permettre à la population, un porte-parole naturel pour la population, qui va mettre en forme ce que pensent les habitants, comme ça on pourra intégrer les habitants, les riverains dans nos politiques publiques. Donc c'est la menace principale. Donc tu te dis effectivement, on voit bien tout ce que peut apporter comme nouvel enjeu de riveraineté. Le fait d'ouvrir à des enjeux de riveraineté les politiques publiques, c'est intéressant. Le fait de parler des habitants, c'est intéressant. Il va y avoir une ouverture. Cette ouverture va être instrumentalisée, récupérée, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire, pour éviter ça, puis aussi pour nuancer, parce que tous les artistes qu'on a vus, ils ne font pas exactement ça. Ils ne sont pas exactement au service de, porte-parole de, médiateur de, c'est toujours plus compliqué. Il y a un deuxième effet qui est très fort chez les artistes, ils déçoivent toujours un peu. Ils déçoivent le commanditaire, ils déçoivent... Ben, on a bien vu ça, ça a été raconté par une collègue qui travaillait sur la restauration écologique. Bon, ben, effectivement, la restauration écologique, des grosses entreprises aux États-Unis qui polluent, qui font des carrières, etc., elles utilisent des artistes, elles se disent, tiens, il y a des artistes écologiques qui vont nous faire des belles choses à partir de nos carrières. Bon, qu'est-ce qui se passe? En général, une bonne partie des artistes qui interviennent là-dedans, leur action est beaucoup plus ambiguë et beaucoup plus sophistiquée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la carrière une belle œuvre d'art, ils vont faire quelque chose d'un peu désagréable. On va par exemple, il y en a un qui va créer, alors, je parle sous ton contrôle, avec tu les connais mieux que moi, qui va laisser les troncs sciés à mi-hauteur. Donc ça va faire un espèce de truc bizarre, un espèce de creux dans lequel il y a des arbres coupés, tronçonnés. C'est pas très agréable, c'est pas très valorisant pour l'action de l'entreprise. Donc, ça, très très souvent, l'artiste déçoit quand on attend... Les interventions de Gilles Bruni, par exemple, Gilles qui est intervenu avec différentes collectivités locales qui l'ont fait intervenir, elles lui disent, voilà, il y a par exemple une zone... qui est verte là, où il y a une maison un peu en ruine, qu'est-ce que tu pourrais nous faire avec ça? Et bien lui, il va faire pousser des arbres dans la ruine, la ruine va être encore plus en ruine, il va creuser sur le sol pour faire ressortir un certain nombre de choses qu'on avait envie de cacher. Donc il y a toujours, cette dimension déception, déceptif, etc. Alors ça ne va pas toujours vers l'utopie. Mais effectivement, l'artiste, il n'est pas contrôlé par son commanditaire et lui-même ne contrôle pas forcément ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'événements, quand il est en train de travailler, qui va récupérer, réintégrer et qui vont faire évoluer. Par exemple, j'ai un copain qui est peintre, il a un système de grands glacis sur son châssis. Ça coule, il y a des irrégularités de la toile, il contrôle les irrégularités, il y a des phénomènes qui se produisent qu'il va ensuite réintégrer. Donc il n'y a pas maîtrise, on est d'accord. On parle de fabrication sans maîtrise.
L'inintentionnel, ce n'est pas la question de la maîtrise.
Mais il y a aussi l'intentionnel qui après va être
recyclé. C'est le fait que, quel que soit l'intentionnel du commanditaire, bon, ça c'est une chose. Mais mettons ça de côté, peu importe, il sera toujours déçu parce que peut-être qu'il ne connaît rien à l'art contemporain, etc. Bon. Mais du côté de l'art contemporain lui-même, il y a l'intentionnel de l'artiste et son inintentionnel, c'est-à-dire ce qu'il va produire, indépendamment de la maîtrise du type de geste qu'il choisit d'avoir. Ça, c'est une autre question, c'est une question technique. Donc, il y a qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il avait prévu de dire ce qu'il dit et est-ce que c'est audible, pas audible, etc. Bon. Donc, cette part-là de l'inintentionnel, peut-être qu'elle est complètement saturée par du discours social, par une formation discursive complètement normative. Et qu'il n'en décide pas. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de très répétitif y compris de mon point de vue dans la manière dont on découpe les objets. Et ça me fait penser, moi, à un texte de Borges où il décrit un géographe dont l'ambition, c'est de faire une carte à l'échelle 1. Comment on fait dans ces cas-là pour réussir à penser des situations? Voilà. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose à interroger de ce côté-là, dans la répétition, et que cette répétition, elle ne dit pas nécessairement de la déconnexion, mais un autre mode de connexion.
Michel, tu voulais intervenir?
C'est vrai que si c'est pour substituer la figure de l'artiste, du compositeur, même de l'improvisateur, du architecte, ça fait déjà 15 ans, avec un séminaire, on a déjà rencontré des gens de théâtre, des gens de l'architecte. Tout le monde se disait dramaturge, l'architecte aussi, son récit, fabrique son scénario, etc. Donc, je pense que le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire, on revient quand même à l'idée plutôt, puisqu'on est bien d'accord que l'artiste n'a pas apporté la solution que les autres n'ont pas apporté, on revient, il me semble, plutôt à la question de qu'est-ce qui peut se fabriquer ensemble avec des habitants, avec des acteurs, avec des... Donc, c'est plutôt l'émergence d'un acteur collectif dont on est en train de chercher, qu'on est en train de chercher plutôt. Donc, même y compris en aménagement. Enfin, plus que jamais en aménagement. Enfin, on le voit bien avec le Grand Paris, c'est pas quelques noms, 10 personnes, 10 noms d'architecture qui vont fabriquer une pensée sur un grand territoire. Donc il me semble quand même que c'est un débat qui avait peut-être lieu, qui pouvait avoir lieu il y a quelques années, il me semble, je ne sais plus s'il va avec le contexte d'aujourd'hui. Et justement, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il me semble que on parle des politiques publiques, des artistes, etc. On oublie le contexte de l'année 2005, enfin de ces années-là, où les coupes budgétaires sont ahurissantes dans les aides aux politiques publiques, dans les aides aux politiques culturelles, etc. Donc on est en train de parler de quelque chose qui déjà n'a probablement plus lieu. On parle du passé. Il me semble que la condition de la production, de l'action de l'artiste, il me semble quand même qu'il faut tenir compte de ce contexte aussi. On n'est plus dans ce champ-là.
Dans les coupes, c'est pas sûr.
Il y a des discours qu'on entend beaucoup. On a entendu un discours qui était l'essoufflement, la fin de la philosophie. On entend un discours sur l'essoufflement de l'art. Bon, je veux dire, c'est un discours. Non, attends. C'est un discours que je trouve terriblement général. Et on voit tout un ensemble de choses intéressantes. Il y a des. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas.
C'est pas la question.
Est-ce qu'on pourra? Est-ce qu'il sera encore possible de? Oui. Est-ce qu'on est saturé?
Quand il décrit le régime moderne des arts, qui prend Flaubert. C'est pas une dévalorisation de Flaubert, c'est-à-dire qu'il y a une part d'inintentionnel, ou de mal armé, ou de je ne sais pas quoi.
Mais l'inintentionnel n'est pas forcément le déterminisme social, c'est ça qui ne va pas dans ton truc. Je veux dire que la fabrication s'apparente de plus en plus à une action maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait cette vision de la fabrication avec maîtrise, maintenant on est dépassé par ce qu'on produit. D'accord, tout le temps. Mais on est dépassé aussi bien dans la technique que dans l'art. Qu'on soit dépassé par le produit de ce qu'on fait, c'est bien. Est-ce que c'est forcément toujours là que va se nicher le déterminisme social? Moi, je ne suis pas sûr. Je veux dire, ça, c'est pour ça que je dis que c'est un discours qui est. C'est ça que j'en suis sceptique.
D'un autre côté, vous ramenez beaucoup l'usager à un rôle d'inspirateur de l'artiste, ou que l'artiste serait censé être la voix des habitants. C'est très très ambigu, ça, parce que ça, je trouve ça particulièrement faux. De l'expérience que j'ai au moins, c'est absolument absolument impossible de démontrer ça, quoi. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais, si vous voulez. Et du coup, ça m'interroge alors en revenant sur toute la journée, quel est le rôle de l'habitant? Parce que finalement, on tourne autour du pot, on n'arrête pas de faire comme s'il était une quantité ou une unité finalement fixe ou un peu stable. Or, l'habitant, il est créatif. Il est insaisissable, il est là où on l'attend pas, et il s'en fout des artistes. Ouais. Il veut bien consommer de temps en temps des trucs, mais c'est au même titre que les politiques ou que les autres. Et c'est d'où la question que je posais en fin de matinée. L'habitant, s'il est considéré comme la petite parcelle de privé, pour reprendre les termes de la matinée, puisque c'est finalement lui qui l'incarne, au bout du compte, l'habitant que nous sommes tous, bien entendu, quelles que soient nos fonctions, à partir de là, comment se joue cette petite part privée dans l'espace public ou dans l'espace collectif, disons? Et je crois que c'est un rôle qui est éminemment polyvoque. Il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est très intéressant de mesurer aussi ça dans les relations, dans un système relationnel ou un système, tout simplement, avec les autres acteurs, dont les artistes sont une des forces de proposition, mais qui, là encore, n'est pas homogène. Les artistes peuvent être instrumentalisés, ils peuvent être les trois attitudes finalement décrites coexistent.
En ce qui me concerne, j'ai suffisamment, enfin, déjà, en ce qui me concerne, concernant ce que je vous ai présenté là, il ne s'agissait pas du tout de présenter des artistes qui sont la voix des habitants. Il s'agissait de faire... ou alors je me suis mal exprimée, ça peut arriver, hein, excusez-moi. Mais c'était absolument pas ça. La question, c'était de trouver un moyen, un média, si vous voulez, une façon de faire qui permette de rendre compte de l'expérience du paysage sonore. Voilà. Et j'ai cherché, j'ai tâtonné entre voix, entre prises de bruit environnementaux, comment rendre compte de l'expérience de ce vécu des lieux, si vous voulez, et comment le mettait-on en scène publiquement, puisqu'il s'agissait d'en faire un dispositif artistique lors d'une manifestation publique. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne d'autres beaucoup d'artistes aujourd'hui travaillent avec des habitants. Certains, effectivement, ont la prétention ou croient ou s'illusionnent sur le fait de se faire représentant des habitants. Il y en a beaucoup qui savent très bien que leur faut pas non plus prendre... je crois que personne n'est crétin totalement. Il y en a forcément, mais je crois qu'il faut pas non plus... les artistes sont pas crétins, les habitants non plus, personne... Voilà, il y a un minimum, on sait quel jeu on joue à un moment, on se laisse pas totalement berner, et des fois, quand on se laisse berner, c'est aussi parce qu'on le veut bien et qu'on joue ce jeu-là. Donc c'est quand même plus complexe que ça. Et je crois que la plupart, par exemple, ceux qui travaillent sur Barcelone, ne pensent pas du tout se faire le porte-parole des habitants. Ils font du travail qu'on peut qualifier d'ingénierie culturelle, éventuellement. Pour beaucoup d'artistes, travaillent qui est fait par cela n'est pas de l'art, hein. Donc ça, c'est encore une autre complexité. Donc encore une fois, je crois qu'il ne faut pas transformer ce qu'on se dit en une apologie ce qui me concerne en tout cas, du démiurge artiste. C'est pas du tout la question, c'est juste de pointer et de dire, là je coordonne un livre sur art et écologie, et de dire il y a des artistes qui travaillent aujourd'hui dans un rapport à la question environnementale, passant par des travaux avec des habitants, des communautés, en particulier dans le monde anglo-saxon. Ce sont des artistes qui sont en nombre important, et en tant que chercheur en sciences sociales, le moins qu'on puisse faire, c'est déjà de regarder ce qui se fait. Il y a des intentions derrière, il y a des envies, on peut élaborer une grille critique de ces envies, on peut dire que ça fait partie du patrimoine, mais il me semble, quand on regarde dans le détail l'ensemble de ces actions artistiques, que c'est aller un peu vite en besogne, et que beaucoup savent, en ce qui les concerne, que ce qu'ils font et ce qu'ils produisent, y compris Smithson, vous connaissez Spiral Jetty qui est une énorme œuvre de l'Inde artiste, savent que leur œuvre et ce qu'elle produit comme effet dépasse et de loin les intentions qu'ils ont pu y mettre. Donc je crois que là, il ne faut pas faire de faux procès et qu'il faut regarder ce qui se passe avec intention, avec attention plutôt. Enfin, moi, c'est ce... Voilà.
Oui, la connexion, peut-être, quand on parle d'habitants, la connexion la plus facile pour faire avec l'esthétique, c'est par l'esthésisme. C'est vraiment considérer l'habitant comme étant dans son environnement, avec tout un ensemble de relations qui définissent son environnement. Et dans ce cas-là, on pourrait presque dire que la relation environnementale est esthétique. C'est-à-dire qu'elle met en jeu toutes les déclinaisons du sens, toutes les significations du mot sens. C'est-à-dire qu'elle est sensorielle, elle est sensible, elle est imaginative, elle est insignifiante, elle a toutes ces dimensions-là. Ça correspond beaucoup plus à l'esthésie. Donc, si on s'intéresse à la relation environnementale, on touche, d'une certaine manière, l'esthésie, plutôt l'esthésie que l'esthétique. Donc, ça veut dire que l'habitant, quelque part, son expérience, elle est d'ordre esthétique. Alors ça, c'est bon, c'est tout un courant philosophique et sociologique dans le monde anglo-saxon qui parle de ça. Mais l'expérience de l'habitant est d'ordre esthétique. À ce moment-là, le lien est plus intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette expérience qui est difficile de révéler, qui est difficile qui reste dans de l'intime malgré tout, qui est difficile de mettre en avant. Et on a des outils dont parlait Nathalie, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas moi, des formes collectives qui sont le paysage, qui sont l'ambiance, qui sont la métaphore, qui nous permettent effectivement d'accéder d'une certaine manière à cette expérience. vous travaillez là-dessus, on souhaite travailler là-dessus, ça ne me semble pas caricaturable. Ça, c'est sur cette dimension habitant. Sur la dimension artistique, il y a effectivement des connexions qui se font dans certains mouvements d'habitants avec les artistes. La connexion se fait certainement en partie avec cette notion d'esthésique, esthétique, mais on a vu qu'elle répondait à différentes modalités. Enfin, il n'est pas question de dire que l'artiste devient le porte-parole des habitants. En revanche, peut-être, ce qui peut peut-être se promouvoir, c'est une autre justification à la participation. C'est-à-dire de dire qu'il y a peut-être, comment on pourrait dire, il est peut-être possible de promouvoir une esthétique participative où on a une espèce de va-et-vient entre l'engagement corporel de l'habitant dans son expérience et puis une certaine expertise dont il dispose en tant qu'habitant, une expertise non experte, hein, c'est tous ses savoir-faire locaux, etc. Et puis ça permet également de lui permettre un certain type de participation. Je crois que c'est dans ce va-et-vient qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue. L'artiste là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'est pas forcément porte-parole, il n'est pas forcément médiateur. Peut-être qu'il peut, moi je dirais, apprendre aux habitants à utiliser ces outils de mise en forme. Parce que lui, il est quand même spécialisé dans la mise en forme, l'artiste. Il est spécialisé dans le récit, il est spécialisé dans toute cette gestuelle, il est spécialisé là-dedans. Donc peut-être qu'il peut effectivement jouer un rôle par rapport aux habitants, à travers, je ne sais pas, moi, les habitants d'un quartier, peut-être qu'il serait intéressant qu'il y ait des ateliers d'écriture, des ateliers. Ça a déjà été fait, hein, je ne dis pas. Mais peut-être qu'effectivement, c'est une voie qui est indiquée.
Ce qui m'apparaît, moi, c'est qu'il y a en gros, il y a quatre. On a parlé de quatre groupes de personnes, peut-être plus, mais j'en ai noté au moins quatre, de gens qui interviennent sur leur environnement, disons. Alors, dans le désordre, l'habitant, l'artiste, l'aménageur et le politique. On a parlé de ces quatre aujourd'hui. Ce que je voulais simplement dire, et je suis bien d'accord avec la remarque, c'est qu'aucun de ces groupes-là n'est homogène. Et donc, c'est très difficile de dire l'artiste, l'habitant, etc. Mais on est d'accord là-dessus, je ne fais pas de procès du tout, c'est pas la question. Je creuse les idées. Là où je vais un tout petit peu plus loin, si vous me permettez, c'est que moi, je crois qu'il n'y a pas rupture entre ces quatre groupes. C'est que les quatre ont des rôles de mise en forme, ont des rôles de mise en scène, ont des rôles d'intervention, ont des rôles de décision, ont des rôles d'imagination, ont des rôles, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils se confondent, parce qu'ils ont chacun leur spécialité, leur savoir-faire, leurs artisanats, leurs méthodes, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas dénuer certaines qualités globales des uns ou des autres aux autres groupes, et notamment à l'habitant, qui a un rôle créateur de son environnement fondamental. Je trouve que c'est un mode. On en tient rarement compte de manière aussi étonnante que ça soit, parce que je trouve qu'il a un rôle. Bon, dans notre approche des ambiances, par exemple, c'est impossible d'imaginer qu'une ambiance puisse être faite sans tenir compte de cette dimension-là, de la prolongation que les habitants font.
Mais du coup, pour rebondir sur l'entier séminaire d'aujourd'hui, enfin, c'est un peu les réflexions que je faisais à midi. J'ai beaucoup travaillé sur la création ordinaire des habitants. Ils plantent, ils produisent du milieu, ils laissent pousser les blattes, il y en a partout, ils produisent du milieu. Enfin bon, toutes ces formes intentionnelles et inintentionnelles de création de milieux habitants. Ce que je suis surprise, c'est qu'au travers de la question d'ambiance, finalement, on traite de cette créativité ordinaire, peu importe les termes, de cette créativité, de manière relativement non incarnée, j'ai envie de dire. Alors qu'il y a toute une tradition des formes de vie, d'esthétique ordinaire, chez Leroy Gourhan, Wittgenstein, il y a toute une relation avec le pragmatisme américain sur cette question des formes de vie, avec leur esthétique, justement, qui me semble un peu méconnu ici, et je trouve ça dommage si on veut aller dans le sens que tu dis, justement, les habitants produisent, ils produisent du milieu, intentionnellement, inintentionnellement, bon, et comment on aborde l'esthétique de ce milieu, qu'est-ce qu'on en fait, comment lit-on, et ça, moi, c'est ça qui m'a poussé vers l'esthétique environnementale, pas tant les artistes. Les artistes, pour moi, ils tracent des pistes. Enfin, c'est comme, il y a la question de l'avant-garde, des éclaireurs. Enfin, ils manipulent les morceaux du milieu et ils les mettent autrement. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que sur cette question de l'esthétique ordinaire, je trouve qu'il y a peu de choses qui sont faites.
Alors, Jacques, parce qu'après, les gens, ça va, tout le monde va.
Non, oui. Dans le temps qu'on a préparé ce DRI là, avec avec Jean-Paul, on a essayé de voir qu'il y avait une espèce de continuité. Enfin, on revient un peu à ta question. Hein. L'application de l'esthétique dans la fabrication de l'environnement, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre l'expérience esthétique de l'habitant riverain qui donne vie et corps aux environnements quotidiens. Ça, c'est le niveau qui vous intéresse très souvent, hein, sur lequel vous êtes souvent. Mais il y a un niveau qui m'intéresse, moi, plus spécialement, c'est la publicisation. C'est-à-dire qu'on a effectivement des mobilisations d'habitants, des collectifs qui se définissent parce qu'il y a un problème. Donc ils vont essayer d'explorer leurs troubles devant le problème et pour essayer de faire en sorte que ça devienne quelque chose de public. Hein. Ça, c'est la définition de Dewey. Ça, c'est la publicisation. Et très souvent, ces habitants-là, ils vont mettre en avant une certaine conception de l'environnement qui va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus impliquée, etc. Des mobilisations qui vont déboucher sur une conception de l'environnement. Puis la troisième, c'est la déstabilisation. Ça, c'est le champ des artistes. Bon, il y a les expérimentations artistiques qui transforment les lieux, qui instaurent un nouveau partage sensible, etc. Ça, c'est une troisième dimension. Je crois que les trois dimensions sont intéressantes. Les trois interviennent dans l'esthétique et les trois interviennent dans l'environnement. Mais je crois qu'il ne faut pas les confondre. Moi, c'est la deuxième qui m'intéresse plus spécialement, la troisième un peu avec Nathalie. Puis la première, c'est vous qui... Elle vous intéresse beaucoup. Et l'idée, avec ce GDRI, c'est finalement que ces trois dimensions soient prises ensemble, que ces trois intensités soient prises ensemble. Et je pense que là, c'est... On a peut-être des passerelles plus faciles à prendre. Sinon, chacun va se reprocher. Bah oui, les uns vont être plus sur l'habitant ordinaire, les autres vont être plus sur l'immobilisation, le troisième va être plus sur les artistes. Bon, il faut que tout ça se brasse, quoi, je veux dire. Parce qu'effectivement, chacun fonctionne un peu différemment.
C'était juste pour dire qu'il me semble qu'en fait, la journée a été traversée par une tension entre deux choses, entre deux éléments qui réapparaissent d'ailleurs en fin de journée, qui est d'une part une posture qui est une posture critique, qui met en œuvre en fait une argumentation de l'ordre peut-être de la résistance ou de l'ordre de la reproduction ou de la critique de la reproduction, d'une part. Et d'autre part, on a affaire à une posture qui est pragmatique, qui s'inscrit dans ce que disait après Jacques et Nathalie, dans l'implication en fait pratique des choses et qui va se tourner plutôt du côté de la création. Sur la question du partage du sensible à partir des approches politiques, il me semble qu'il y a ces deux postures-là qui sont très, à mon avis, très complémentaires, à penser en tout cas dans leur complémentarité entre du critique et du pratique, entre la résistance et la création, et c'est que là où on peut essayer de démêler les liens, je pense, il me semble.
Merci. Alors, je vais passer la parole à Hélène, mais justement, je veux remercier les 4 étudiants qui nous ont suivis tout le séminaire. Est-ce que vous avez un mot vous pouvez y aller.
Merci de votre écoute active. Hélène,
j'aurais voulu dire quelques mots là peut-être, parce que j'ai assisté aux 3 séances du séminaire Ambiance urbaine en partage, expérience du dépaysement. Et là, il y a effectivement 5 mots hein, qui nous ont énormément mobilisés pendant ces 3 séances, dont je voudrais essayer de tirer 3 thèmes. En vue de lancer de nouvelles recherches, parce que c'était ça la base du séminaire. Jean-Paul l'a rappelé au début, il y a Rio d'une part, et puis il y a un petit peu plus loin aussi l'idée de lancer un programme de recherche autour de ces questions-là. Alors je vais très très vite. Hein. La première chose, c'est la question, je dirais, de l'expression du monde. Si on part des sujets sentants, je vais le dire comme ça, hein, au pluriel, donc avec toutes les questions du commun, du différent, hein, du partagé ou non, hein, donc sensible, ambiance et tout ça. Donc expression telle qu'on l'a employée tout à l'heure et ses modes de représentation au-delà. Avec donc ce sujet sentant dans un contexte aujourd'hui qui nous interpelle, qui nous pose vraiment ces questions-là. On l'a vu, du global, ce matin. Hein. Interrogation également sur laquelle il nous faudrait revenir si on fait des recherches là-dessus, sur le rapport public. Qu'est-ce que ça signifie, ces termes de public, privé, intime, hein, extime, parce que je pense qu'effectivement, cette notion est importante aujourd'hui. Et tout le refoulé. Le refoulé autour de tout ce qui est l'essence, le corps, les notions de, d'environnement dont on a parlé, du vital, etc. Le nom légitime, le nom, aujourd'hui, opinion sur rue. Et à partir de là, la question des rôles. La question des rôles, dont on a amorcé ici une très intéressante discussion à la fin, mais déjà avant, sur la place des habitants. La place du public, est-ce qu'il est seulement spectateur ou pas, hein, et on l'a vu dans les questions de la participation ou autre, etc. La place de l'artiste, bien sûr. La place de l'aménageur, de l'architecte et tout ça, on est en plein au cœur de nos questions. La question des postures, je renvoie à ce que vient de dire Jean-Paul à l'instant, et la question des méthodes, où j'ai noté toute la prise en compte de l'expérience, c'est pas neuf mais c'est très important, du mouvement, de la performance, aux différents sens du terme. Deuxième grand axe, c'est ambiance, et dépaysement, etc., comme question réellement politique. Premier point, il y en a trois, c'est très rapide. Qui a part, hein, c'est autour de Rancière, mais ça me semble extrêmement important. Qui a part, qui n'a pas part à ça, hein, ça renvoie un peu à ma question des rôles. Comment tout ça, ça se déplace? Quelles valeurs, hein, quelles sont des valeurs partagées ou non? C'est très sensible dans la question de New York, hein, et d'aller vers le métro. Et quelle dynamique? Il semble qu'on a beaucoup parlé en termes de dynamique et que toutes ces questions de dépaysement, ça nous met dans une réflexion autour de ça, beaucoup plus que de ce qui est. C'est la question donc de la dynamique autour du vivre ensemble, qu'est-ce qui le constitue, la survie, autour de la peur, autour de l'énergie. Bon, il me semble que là, il y a des choses très fortes à retravailler en vue d'un appel d'offres. Troisième et dernière question. C'est des questions aux politiques publiques. Ça, on l'a vu tout le long. Alors, à l'ensemble des politiques publiques, elles sont convoquées par ces questions des ambiances, que ce soit les questions de territoire et de lieu, que ce soit des questions de dispositifs, beaucoup parlé, que ce soit des questions de comportement. Plus particulièrement les politiques culturelles, parce que ça m'interpelle directement par ma posture. Alors, je dirais simplement qu'aujourd'hui, il est demandé aux politiques culturelles d'être un véritable couteau suisse. C'est-à-dire qu'elles se substituent à ce qui a pu être avant, le rôle de la religion ou le rôle d'un projet de société pour rassembler, réparer des trous, un tissu, etc. Donc, comme, et ça, il va falloir l'interroger, outil de transformation, des lieux, des dispositifs, des comportements, etc. Et outils de mise en commun, à interroger aussi. N'oublions pas qu'à l'origine de cette réflexion qui a été proposée sur les ambiances urbaines en partage, il y a l'idée que la culture peut ne plus être maintenant simplement le véhicule de l'universel, que notre pays ou notre Europe pourrait déverser sur le monde, mais qu'il y a la base d'une interculturalité, donc de mixité, de transculturelle, etc., auquel il nous faudrait réfléchir. C'est la base de la réflexion qu'on a eue sur la question des ambiances. Donc, voilà, ces trois thèmes me semblent, et bien d'autres, j'ai essayé d'être très très rapide, en tout cas des pistes très très fortes à travailler en vue de préparer un appel d'offres sur ce sujet-là, quand les choses seront mûres. Merci.
Merci Hélène. Et merci, non, je n'ai pas de conclusion. Merci à tous. C'est bon.